Bonjour.
Bonjour.
À la une du Figaro, un sujet qui inquiète les enseignants démunis face à l'offensive islamiste.
Le journal énumère les incidents plus ou moins graves, parfois dramatiques, qui ont eu lieu récemment dans des collèges et des lycées. Une période folle, s'alarme une enseignante. 2 mois après le meurtre du professeur Dominique Bernard à Arras, les menaces sur la profession d'enseignant éclatent au grand jour, écrit le Figaro. Invectives et agressions font partie du quotidien. Plusieurs professeurs ont été mis en cause, voire menacés pour avoir qualifié le Hamas de mouvement terroriste ou présenté récemment en classe, on le sait, un tableau du XVIIe siècle montrant des femmes dénudées. C'était à Issou. L'angoisse monte. Une prof lâche cet aveu dans le Figaro. En terminale, on s'apprête à étudier le génocide des Juifs. Les enseignants n'attendent pas ce moment avec impatience.
La politique de fermeté affichée par le nouveau ministre Gabriel Attal a-t-elle un effet positif?
Eh bien, les chiffres semblent l'attester. À la rentrée de septembre, les signalements pour atteinte à la laïcité ont explosé. Après les consignes du ministère sur l'interdiction de l'abaya, les alertes venaient de 500 établissements situés dans des zones bien identifiées, comme Vénissieux, Lyon, Marseille ou la Seine-Saint-Denis. Mais le Figaro précise qu'une forte baisse des signalements a été enregistrée en novembre. La question de l'abaya semble réglée ou presque, mais la guerre en Israël ravive les craintes. Ce qui est mis en cause dans les classes, c'est la politique menée par Israël et pas seulement par des élèves dont on pourrait penser qu'ils sont pro-palestiniens, écrit le Figaro. Dans un sondage publié il y a un an, 56% des professeurs disaient s'auto-censurer pour éviter des incidents. C'est sans doute plus aujourd'hui.
Dans Libération, un prof d'histoire prend la parole sur un autre sujet qui résonne lui aussi avec l'actualité au Proche-Orient. C'est la pratique des prises d'otages.
Oui, pas sûr qu'on puisse dispenser ce cours-là dans une classe sans incident, mais l'article est passionnant. L'historien Gilles Ferragu décrit dans Libération donc une pratique en réalité très ancienne. Le terme d'otage surgit dans la chanson de Roland, puis dans le dictionnaire en 1694. Au départ, les rois s'échangeaient des otages pour garantir leur traité. Plus tard, la Révolution transforme ses prisonniers de guerre en otages de la nation et Napoléon crée en 1811 le statut d'otage de guerre. Ensuite est venu le terrorisme en Amérique du Sud dans les années 60, puis les détournements d'avions et les enlèvements politiques dans l'Europe des années 70. L'historien conclut, instrument d'une diplomatie qui s'inventait, l'otage est devenu le témoin, engagé malgré lui, d'un monde de plus en plus fracturé et d'une géopolitique qui s'abandonne à la violence politique.
Lui aussi fut l'otage d'un régime, l'écrivain et dissident russe Alexandre Solzhenitsyn, dont le livre « L'archipel du goulag » a été publié il y a exactement 50 ans.
Et c'est une autre leçon d'histoire que raconte la vie de Solzhenitsyn, une vie de combat contre les totalitarismes, écrit le Figaro. Le journal évoque l'exposition qui est consacrée à l'écrivain russe en Vendée où il s'était rendu en 1993 pour rendre hommage aux victimes de la terreur révolutionnaire car il y voyait une répétition de la terreur rouge de Lénine. Son fils, pianiste et chef d'orchestre, décrit dans le Figaro l'exil de la famille Solzhenitsyn aux États-Unis, la passion de Solzhenitsyn pour la musique, sa méfiance envers les idéologies et le fils cite cette phrase du père, l'imagination et la force intérieure des scélérats de Shakespeare s'arrêtait à une dizaine de cadavres parce qu'ils n'avaient pas d'idéologie. C'est peu dire que le propos garde son actualité.
Et je vous renvoie à l'interview que j'ai faite à l'instant de Stéphane Courtois sur la cruauté en politique, livre essentiel. Tout à fait autre chose, le magazine L'Express décrit un nouveau phénomène, de plus en plus d'hommes ont recours à la médecine esthétique.
Oui, médecine esthétique à ne pas confondre avec la chirurgie esthétique car il n'y a pas d'opération. La médecine esthétique consiste essentiellement en des injections de produits dans le visage pour atténuer les rides. Il y a aussi le peeling pour éplucher les peaux mortes et la cryolipolyse du froid pour perdre les poignées d'amour, précise l'Express.
Ça m'intéresse.
Les
ça.
Représentants du secteur estiment que la clientèle masculine a doublé depuis le Covid pour atteindre 25% des patients. Ce serait, tenez-vous bien, l'un des effets de la généralisation des visioconférences. Beaucoup de seniors n'avaient pas l'habitude de se voir autant, ce qui a entraîné un mouvement vers l'esthétique, du maquillage aux soins, et a ouvert le domaine aux hommes, explique la directrice générale d'un groupe spécialisé.
Et puis le télétravail, on reste derrière sur sa chaise et on prend du poids. Et donc la cryo lipolyse, ça peut être utile. Alors il semble que les motivations des patients soient autant professionnelles que purement esthétiques.
Laurent, 51 ans, chef d'entreprise et grand amateur de Botox, a opté pour les piqûres après son divorce il y a 10 ans. Il ne voulait pas porter la misère du monde sur son visage, dit-il, ni avoir l'air d'attendre la retraite. L'Express précise que si les femmes qui ont recours aux injections sont d'origine sociale diverse, les hommes qui se retouchent sont pour la plupart des cadres et des dirigeants qui veulent s'offrir ou conserver la tête de l'emploi. Le président d'un syndicat de médecins confirme: plus qu'avoir l'air plus jeune ou plus beau, ceux qui franchissent le pas veulent éviter d'être marqués, de paraître fatigués ou soucieux pour ne pas être mis sur la touche. Ce serait donc la piqûre ou le placard.
Ou le sport, car vous êtes toujours beau, Hervé Gattegno. Oh, et je sais que c'est grâce au sport et une hygiène alimentaire que j'ai pu observer. Vous ne prenez pas de dessert. Dans Ouest France, il est question d'autres opérations chirurgicales, celle d'un médecin du Vatican soupçonné d'escroquerie.
Le professeur Sergio Alfieri n'est pas n'importe quel médecin. C'est le chirurgien habituel du pape François qu'il a opéré du côlon en 2021, puis d'une hernie en juin dernier. Il dirige l'unité de chirurgie digestive d'une grande clinique romaine. Sauf que voilà, il est accusé d'avoir falsifié ses registres pour y inscrire des dizaines d'interventions qu'il n'a pas réalisées. Et pour cause, l'enquête établit qu'il était au même moment en train de tenir des conférences. Le journal italien La Stampa, qui a révélé l'affaire, relate que plusieurs patients du professeur Alfieri ont porté plainte après avoir découvert qu'il était censé les avoir opérés tous à la même heure. Ouest France ne précise pas si c'est bien lui qui tenait le bistouri quand le pape est passé sur le billard, sauf à envisager que le souverain pontife ait été guéri par l'opération du Saint-Esprit.
Je connais un orthodontiste qui a 5 ou 6 patients en même temps sur ses sièges, dans son cabinet. Ah ouais, je peux vous dire que ça débite, si j'ose dire. Hervé Gattegno lit la presse pour vous chaque matin sur Radio Classique de lundi au vendredi, et c'est après 8h30. Merci Hervé. Et restez beau comme vous êtes.
Je vais essayer.
Dans un instant, deux beaux spécimens d'esprit libre, Cécile Cornudet des Échos et Jean-Marie Colombani, fondateur du site Slate et ancien directeur du